Bienvenue à ce sixième et dernier module du cours consacré à DevOps en pratique. Ce sixième et dernier module est consacré au Release Management. Donc on s'approche de la fin du cycle de vie de notre application, de notre projet.
Et de notre cours.
Et de notre cours. Donc je suis toujours avec Julien et Stéphane. On va donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Release Management et en quoi ça va nous aider à déployer notre application en continu. Et puis comment nos outils Microsoft, donc à savoir Visual Studio Team Services, vont nous aider à faire ce fameux Release Management. Et donc Stéphane, remets-nous un petit peu dans le contexte de notre projet.
Voilà, donc on poursuit gentiment sur notre cercle, toujours vertueux. Hein, donc on a archivé le code source, on a lancé le build, lancé un certain nombre de tests. Et à l'issue de ces opérations, on a enfin un binaire, des librairies. Et ce binaire, ces librairies, il est peut-être temps maintenant de se demander comment on va les amener jusqu'à la production.
On a des artefacts, on a des scripts et une infrastructure également. Dans ce...
Effectivement, oui. Et donc là, on va pouvoir enchaîner différentes étapes. C'est-à-dire que sur la base de ces livrables qui ont été produits par le build et sur la base des scripts de configuration de différents environnements, on va pouvoir lancer des tests qui cette fois-ci vont plutôt être des tests fonctionnels, des tests d'interface utilisateur, et ils vont pouvoir s'exécuter sur différents environnements qu'il va falloir mettre à disposition. Alors soit ils seront déjà pré-provisionnés, soit il faudra les provisionner à la demande, entre guillemets. On verra en fonction des cas, en fait. Et donc, l'ensemble de ces étapes, elles vont s'inscrire dans un processus qui est le processus de release management. Donc, l'objectif de ce processus, c'est d'identifier les versions qui sont aptes ou non à partir en production. Et donc, il faut pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est le côté DevOps, avoir en continu l'information sur le fait que la dernière génération livrable va pouvoir partir en production ou être mise de côté et identifier les raisons pour lesquelles elle n'est pas viable pour la production. Et donc, ces étapes, elles s'inscrivent dans ce processus de release management. On parle aussi de management pipeline, pour reprendre la formule de Jason Bull, donc, qui a écrit un ouvrage sur le continuous delivery. Et donc, ces étapes, elles s'inscrivent dans un workflow qu'il faut pouvoir suivre pour être sûr de la façon dont va s'acheminer en fait l'application sur les différents environnements. L'application fonctionne sur la plateforme d'intégration, elle va passer sur la plateforme de pré-production. Elle fonctionne sur la plateforme de production, elle va passer sur la plateforme de production, modulo une validation manuelle ou pas. On parlera alors de continuous deployment si on est en automatique de bout en bout. Et donc, voilà, on est dans la phase où on a notre code source qui est disponible dans le repository de code source, dans le contrôle de code source. On va passer par les outils que nous a montré Julien pour automatiser le build de ces codes sources. Alors on va se poser la question, en fait, on pourrait très bien se dire, tiens, je lance mon build pour prendre le code source et générer les livrables et les mettre sur la plateforme de dev. Et puis je réitère, je prends ces codes sources, je relance le build pour cibler la plateforme de staging, enfin de pré-production, et même chose pour la prod. Donc, certaines équipes de développement procèdent encore de cette façon-là. Nous, l'approche qu'on met en avant, ce qu'on recommande, c'est plutôt de partir du livrable qui a été produit. C'est-à-dire qu'on fait, comme l'a dit Julien, on peut avoir plusieurs définitions de build pour différentes raisons, mais le build pour lequel on souhaite gérer cet acheminement de différents environnements, à travers les différents environnements, c'est lui qui va être le format pivot, en fait. Ça va être le format généré qui va être véhiculé entre les différents environnements, et ce n'est pas le code qui sera le format pivot à partir duquel on régénère le livrable. D'accord. Sur les différents environnements.
D'où je rejoue la petite animation qui est ici, on envoie vers le code, le dev, puis ensuite
c'est une simple copie qui va pouvoir s'exécuter sur des environnements qui pourront être similaires ou variés, et donc la subtilité, ça va être de mettre en place ce workflow de déploiement des différents environnements et d'identifier éventuellement les versions qui sont produites. Donc ça, c'est dans la partie la génération de build, par exemple. On pourra, dans l'intégration continue, on pourra versionner les livrables pour les associer à une version particulière. Et les livrables eux-mêmes, on les stockera, on va dire, temporairement sur un serveur de fichiers parce que à un instant T, si on a besoin de revenir sur un build qui était généré sur une version de build qui était générée deux jours avant, on a toujours la capacité à le faire puisqu'on a dans le contrôle de code source tous les éléments permettant de le faire. Et on n'ira surtout pas stocker les binaires et les livrables dans le contrôle de code source.
D'accord.
Et ce processus, on le voit bien, pour le coup, il implique forcément aussi bien les devs que les ops. Parce qu'on va provisionner des environnements, on va prendre du code qui a été généré, le déployer sur les environnements. Éventuellement, il va falloir réagir en fonction de ce qu'on constatera comme dysfonctionnement potentiel qu'on aurait pu ne pas voir en amont du processus.
Eh ben, on va voir ça en démonstration. Donc là encore, on va utiliser Visual Studio Team Services qui va nous fournir une fonctionnalité qui s'appelle le Release Management,
tout simplement.
On va voir que ça ressemble...
C'est bien fait quand même.
Ouais. C'est bien fait. On va voir que ça ressemble pas mal à l'interface qu'on avait pour la build, à savoir qu'on va avoir accès à un certain nombre... Enfin, on va définir un workflow, comme tu le disais, qui va nous fournir un certain nombre d'étapes. Donc là, on sera plus orienté infrastructure et déploiement applicatif, évidemment. Mais c'est assez ressemblant. Et la grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'on ne va plus, ou en tout cas pas toujours, travailler dans un seul environnement, mais on va travailler sur une succession d'environnements, comme tu le disais, du développement, du staging, de la pré-production, de la production, et faire transiter ce fameux binaire qui aura été produit par une build. Donc du coup, on va voir ça tout de suite et on va repartir d'une build qui vient de terminer de s'exécuter là pendant que Stéphane parlait. Donc je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu au module précédent, donc sur l'intégration continue. L'idée, c'est que j'ai fait une modification dans le code source de l'application pour passer ici l'application en version 1.0.2. J'ai fait un commit et un push de mes modifications sur mon contrôleur de code source qui vient d'exécuter cette build ici. Et je peux même voir automatiquement, on va en parler tout de suite, que j'ai un déploiement qui s'est lancé. Donc là, on est vraiment dans un déploiement en continu sur mon environnement de développement. Donc juste pour qu'on ait bien les choses en tête par rapport au module d'avant, cette build, elle produit deux choses en sortie. Donc là, elle est orange parce que j'ai un test unitaire qui ne fonctionne pas. C'est aussi la réalité. Alors en l'occurrence, ici, j'ai forcé le fait que la release se fasse quand même dans le cas d'une build partielle. On pourrait évidemment dire, bah non, c'est raté, ça ne fonctionne pas. Bref, dans cette build, j'ai deux éléments qui sont produits en sortie. J'ai dans le dossier drop le fameux package applicatif qui est mon package zip web deploy qui contient le code de mon application web. Et j'ai également le dossier ARM templates qui contient tous les scripts Azure Resource Manager qui me permettent de déployer cet environnement. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la partie release. Donc là, je vois que j'ai une release qui est en cours, j'y reviendrai juste après. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé une nouvelle release definition. Et cette release definition, la première chose qu'on est allé faire, c'est l'associer à une build d'intégration continue. Donc en gros, ce qu'on vient de dire ici, c'est que la build que je vous ai montré juste avant, Parts Unlimited-CI, on l'associe à cette release, ce qui fait que je vais avoir accès aux fameux drop et aux fameux ARM template qui sont produits en output de la build pour cette release. Ensuite, je vais pouvoir définir des variables de la même manière que sur la build. Je vais pouvoir définir des triggers aussi pour indiquer si je veux faire du déploiement en continu, si je veux faire du déploiement schedulé, comment se passe la transition entre mes différents environnements. Donc là, dans cette build, on va le revoir juste après, j'ai trois environnements, le développement, le staging et la production. Et ce que je dis à Visual Studio Team Services, c'est que dès que la release est créée, je veux déployer sur l'environnement de développement. Donc en gros, dès que je vais faire un commit sur mon repository de code source, ça va exécuter la build. Si elle se passe bien, ça va créer une release et ça va déployer sur l'environnement de développement. Ensuite, ce que je vais dire, c'est que quand ça arrive en staging, si jamais c'était, enfin quand c'est successful en développement, quand tout s'est bien passé sur l'environnement de développement, je publie en staging. Et quand tout s'est bien passé sur l'environnement de staging, je publie en production. On verra après qu'il y a une petite subtilité, puisque j'ai une étape de validation avant de passer en production, qui est une étape de validation humaine, ce qu'on appelle un workflow d'approbation, je vous montrerai comment ça marche, pour en gros aller mettre un tampon sur le staging et dire « Ok, ça peut partir en production ». Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'intéresser vraiment à mon environnement de release. Donc on retrouve mes trois environnements, l'environnement de développement, l'environnement de staging et l'environnement de production. Pour l'environnement de développement, la première chose que je vais faire, c'est aller exécuter un script Azure Resource Manager. Donc je suis venu connecter ici ma souscription Azure dans Visual Studio Team Service. Et je vais lui dire que je veux créer un groupe de ressources qui s'appelle Parts Unlimited, que je veux le créer en Earth Europe, et que pour les templates, je vais utiliser les fameux outputs de ma build. Donc en l'occurrence ici, je vais retrouver mon dossier ARM template et je vais aller utiliser full environment merge JSON, qui est en gros un script JSON qui agrège tous les autres pour bâtir un environnement avec de l'application insight, des web apps, du SQL server et compagnie. Donc là, je vais annuler ça. Je vais utiliser le fameux fichier de template parameter et j'ai la possibilité aussi de venir overrider un certain nombre de paramètres dans le template, le nom du site web que je veux déployer, le nom du serveur SQL, le nom de l'hosting plan, il y a du CDN à l'intérieur, bref, il y a un certain nombre de choses. Donc là, j'utilise les fameuses variables qui sont définies. Donc là, à ce niveau-là pour le website name, et ensuite pour chaque environnement, je vais également retrouver des variables qui sont elles spécifiques à l'environnement, qui sont les fameux paramètres attendus par mon JSON. Deuxième chose que je vais faire ici, donc j'ai déployé mon infrastructure, alors en l'occurrence le resource group qui contient mon développement, mon staging et ma production. Mais la deuxième étape ici, ça va être d'aller déployer le fameux package ici qui était en output de ma build, Parts Unlimited Website.zip, sur le site web que j'aurais créé juste avant. Et ensuite, je vais faire la même chose pour l'environnement de staging, sauf que là, je ne vais pas aller déployer directement sur le site web de production, mais je vais aller déployer sur un slot qui s'appelle staging, de la même manière que ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, j'allais déployer sur un slot qui s'appelle dev. Et évidemment, pour l'environnement de production, je publie sur la web app de production. Et donc, du coup, pendant que je vous raconte tout ça, ma release, elle doit être en train d'avancer, donc on va aller voir ce que ça donne ici. Et ce que je peux voir, c'est que ma release 13, elle a échoué, c'est la vie, ça arrive. La release 14, elle a l'air d'être en marche, mais je vois ici qu'elle est bloquée en attente. Et si, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a écrit Post Deployment Approval. Donc en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que mon site web, donc 1.0.2, il a été déployé sur mon environnement de dev. Donc ici, je suis sur le slot dev au niveau de mon URL. On va charger ça. Et a priori, ça a été aussi déployé sur le slot de staging. Donc là, je vais le charger aussi. Seulement, ce que j'ai fait, c'est que pour... voilà, hop, celui-là, il est chargé. Si on descend tout en bas, je suis bien sur la 1.0.2, ça c'est bon. Et donc du coup, là tout à l'heure, je ne l'étais pas. Et maintenant, je suis sur la 1.0.2 aussi, donc c'est bien. Pour éviter que ça passe en production directement, hop, donc on va récupérer cette URL et on va charger également la prod. Hop. Pour éviter que ça parte en production directement, ce que je suis venu faire ici, c'est que je suis venu mettre une approbation au niveau de ma release. Donc en gros, sur chaque environnement, j'ai la possibilité de dire je vais définir des approuveurs et je peux le mettre à deux endroits différents. Je vais pouvoir le mettre soit en pré-déploiement, soit en post-déploiement. Donc là, en gros, j'ai la solution de dire je veux approuver avant de partir sur cet environnement ou après être parti sur cet environnement. Là, je l'ai fait après, tout simplement pourquoi ? Pour me réserver la possibilité d'exécuter un certain nombre de tests avant d'envoyer ma version en production. Donc si je résume, j'ai ma version 1.0.2 qui est partie sur le développement automatiquement, qui est partie sur le staging automatiquement, mais qui est en attente puisque sur la production, pour l'instant, je suis en version 1.0.0. Et donc là, moi, ok, bon, j'ai mon site en staging, je ne sais pas trop ce qui a été fait, donc je vais vouloir exécuter un certain nombre de tests et potentiellement, je crois que sur cette itération, c'était le développement de la partie compte utilisateur. Donc on a dans Visual Studio Team Service la possibilité de créer des plans de tests fonctionnels. Plans de tests fonctionnels, on pouvait le faire avant avec un outil qui s'appelle Visual Studio Test Manager, je crois.
Ou Testing Manager.
Ou Testing Manager. Aujourd'hui, ça a été également intégré dans la version web ici. Donc j'ai un plan de test qui a été défini ici pour l'authentification utilisateur avec deux tests. Je peux créer mon compte, je peux me connecter. Et si je regarde ici, ce plan de test, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une succession d'étapes. Donc c'est un test fonctionnel manuel que j'ai effectué moi-même, qui m'indique exactement quoi faire, me connecter sur le site de staging, cliquer sur le bouton login en haut à droite, cliquer sur le lien register as new user, etc. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Et pour faire ça, je vais dire que je vais exécuter ce test. Et donc, j'ai un petit client web qui va se lancer sur le côté. Et qui va me permettre de dire, OK, va sur le site et fais ce qu'on t'a demandé. Donc, je suis sur mon site de staging. Ça, c'est OK. On me dit de cliquer sur le bouton login. A priori, il a l'air de se passer quelque chose. Et puis là, en fait, je vais avoir le choix. Soit je vais dire, bon, OK, c'est un peu long. Donc, je vais pouvoir rejeter l'opération. Soit je me dis, OK, c'est acceptable. Bon, la page de connexion s'est affichée. On continue. Mais éventuellement, j'aurais pu rejeter ici le test et dire, non, c'est trop long. Et donc, après, ne pas faire l'approbation pour passer à l'environnement sûr. Donc là, je vais faire en sorte de dire que tout est OK. Je save et j'ai validé mon environnement avec mon test fonctionnel. Du coup, je vais pouvoir revenir dans ma release ici. J'ai fait tous les tests que j'avais à faire sur mon environnement et je vais tout simplement cliquer ici pour dire OK, j'approuve le déploiement à l'étape suivante. OK, test fonctionnel passé. Hop, j'approuve et à ce moment-là, le déploiement va se lancer sur mon site de production. Donc là, j'ai fait une étape manuelle. Après, j'aurais pu dire, moi, ce qui m'aurait intéressé, par exemple ici, c'est de valider la charge que peut tenir le site en staging. Et dans ces cas-là, j'aurais pu l'automatiser complètement. C'est-à-dire que dans ma release definition ici, pour l'environnement de staging, j'aurais pu dire, je vais ajouter une étape après le déploiement de l'application. Et cette étape, ça va être un test de performance web. Donc là, en gros, c'est un test qui est très très simple à mettre en place. J'ajoute la tâche ici. Et je vais dire que je vais aller utiliser mon compte Visual Studio Team Service pour faire ça. Je vais aller tester mon URL de staging ici. Je vais l'appeler test de la homepage. Et je vais demander une charge d'utilisateur de 250 utilisateurs pendant 300 secondes depuis les West US. Et ça va me permettre de récupérer des métriques là-dessus et de valider que mon application est déployée et qu'elle a des performances acceptables. Donc ça, c'est la version rapide. Ensuite, je peux aller un petit peu plus loin et faire comme on le faisait au final avant, c'est-à-dire définir des plans de test dans Visual Studio. Donc je vais pouvoir enregistrer un certain nombre de scénarios de tests sur mon application. Donc là, je vais ajouter un nouveau test web. Il va me lancer automatiquement le recorder qui va me permettre d'aller enregistrer toutes les requêtes HTTP que je veux rejouer. Je peux le faire également avec Fiddler. Ensuite, je fais stop ici. Ça va prendre un peu de temps. Il va me parser le truc, etc. pour détecter éventuellement des paramètres dynamiques dans l'URL et compagnie. Je vais pas le faire ici. Et ensuite, ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais créer un test de charge dans lequel je vais ajouter mes différents tests. C'était pas celui-là. Si c'est celui-là. Il l'a rajouté ou pas? Je peux pas. Hop. Test. Il est là. Web test 1. Donc ça, c'est celui que je viens de créer. Je vais pouvoir répartir ces différents tests, etc. Donc, je sais pas pourquoi il va pas me l'ajouter. C'est peut-être parce que je l'ai pas terminé. Test 1, si normalement il est bon. Je l'ai peut-être pas enregistré. Donc je vais ajouter mon test. OK. Non, mais il a pas envie de me l'ajouter. Pourquoi?
Il faut
cliquer avec la flèche à droite. Merci. Donc là, il m'a bien ajouté mes deux tests. Éventuellement, je peux changer la répartition pour dire je veux 70% sur la home mais tant de pourcents sur l'autre, une répartition entre mes browsers, etc. Et ça, en fait, ça va me générer un fichier .loadtest que je vais pouvoir ensuite, donc il est dans mon contrôle de code source, que je vais ensuite pouvoir exploiter au sein de ma release pour pas créer un test rapide, mais vraiment faire un clou de base loadtest et là charger ce fichier de loadtest et puis il va m'exécuter tout ça. Alors là, ça paraît, c'est à la fois rapide et ça paraît très simple quand je le dis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, l'infrastructure qui est déployée pour faire ça, elle est assez impressionnante, puisqu'en fait, c'est Azure qui va me déployer des agents de test qui vont aller attaquer mon site potentiellement depuis différentes locations. Si j'ai envie de voir comment ça se passe depuis les États-Unis, depuis l'Irlande, etc., je vais pouvoir configurer tout ça et l'automatiser véritablement dans mon processus de release management. Et pouvoir dire, bah, si jamais ça se passe mal, on arrête la release. Et puis, du coup, arriver et tendre vers là où on veut tous aller, c'est du continuous déploiement, où on n'a presque plus aucune, voire pas du tout, d'intervention humaine sur le cycle de dev.
C'est vraiment impressionnant le test dans Azure, parce que au MTC, par exemple, on a fait longtemps des tests de charge où on avait automatisé la construction de ce qu'on appelle le rig de test, avec les injecteurs et le contrôleur, la base de données pour les rapports. Et l'équipe avait beau avoir préparé des images pour réinstaller complètement la plateforme, ça nous prenait une matinée pour avoir un rig de test opérationnel. Là, ça prend 10 minutes.
Ça prend 10 minutes. Et donc, du coup, pendant que je vous raconte tout ça, ma release s'est terminée. A priori, tout s'est bien passé. Donc là, mon application, elle est passée en production. Et donc, si je reviens sur ma prod, et que je réactualise, le temps que l'application reboot, on devrait voir apparaître ma version 1.0.2. Ouais. C'est bon. Une autre chose que j'aurais pu faire, vu que je suis sur des slots Azure Web App, c'est faire des swaps, tout simplement. Donc on a la possibilité, en fait, dans Azure, d'aller swapper.
Pour faire du test en production.
Pour faire du test en production, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, si je regarde un petit peu l'infrastructure qui est déployée ici, c'est que je vais avoir une web app avec deux slots, le slot de staging et le slot de dev, plus une base de données par environnement, etc. Et donc, du coup, potentiellement, quand je suis sur mon application web principale ici de production, je retrouve une notion de swap qui va me permettre de dire je vais passer ce qui est en staging, en production et l'inverse. Donc du coup, je vais vraiment faire un switch à chaud des virtual IP, donc ce qui me permet en fait d'avoir aucune interruption de service. Je suis capable de booter mon application correctement sur l'environnement de staging et ensuite faire le swap. Donc c'est vraiment les machines qui sont en staging qui deviennent visibles par la production. Soit je peux aller un petit peu plus loin et effectivement faire ce qu'on appelle du test en production. C'est-à-dire qu'en gros, ici, j'ai une fonctionnalité. Tac, 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 où est-ce qu'elle est ? Est-ce que je l'ai passé ?
Tu l'as pas passé, le deployment slot ?
Alors, c'est qu'on commence à avoir trop de fonctionnalités.
Deployment slot. Deployment slot,
voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Où est-ce que c'est le test en production ? Si, c'est ça.
Tu peux définir si tu veux mettre.
Traffic routing, ouais.
D'accord.
Traffic routing, et donc là en fait, pour l'instant, je vois que j'ai 100% de mon trafic quand je tape parts unlimited jco.azurewebsite.net qui est redirigé sur le slot de production. Mais je pourrais dire, je vais jouer un peu avec mes utilisateurs, ça se fait de plus en plus, et je vais dire que j'ai 10% de mes utilisateurs qui, quand ils iront sur le site de production, ils seront redirigés sur le site de staging. Ce qui va me permettre, et ça c'est quelque chose qu'on abordera dans le cours suivant quand on parlera de l'amélioration en continu, etc., de récolter énormément de feedback beaucoup plus vite, puisque les utilisateurs, c'est eux qui utilisent l'application, donc par définition, c'est eux les seuls critiques. Si je vois par exemple que j'ai une fonctionnalité que je viens de sortir en staging qui n'est pas du tout utilisée, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas pratique, c'est peut-être parce qu'elle est difficilement trouvable sur l'application, etc. Donc du coup, je vais pouvoir remonter ce genre de feedback pour faire en sorte que pour les 90% de mes utilisateurs restants, je puisse fournir une application vraiment de qualité et que je me dise, là, c'est peut-être pas le bon moment de faire le swap pour passer en production. Donc là, on est dans une étape encore suivante où on est sur une release qui est un petit peu hybride entre deux environnements. Et pour la conclusion de cette démonstration sur le release management.
Et bien voilà qui conclut la démonstration, le module et le cours.
Et le cours.
En ce qui concerne le module, déjà, on a vu comment le release management permettait un déploiement en douceur sur les différents environnements de dev, de staging.
C'est une variante du déploiement continu, le déploiement en douceur.
Fait. Tout à fait. En douceur, pourquoi ? Parce que sans stress, parce qu'on s'assure, avec notamment ce que tu nous as montré avec des tests automatisés ou un workflow de validation, on s'assure que ce qu'on met en prod est digne d'être en prod.
C'est ça.
Et avec un aspect continu qui fait qu'on aura des mises en prod assez rapides pour répondre aux besoins initiaux dont on parlait dans le premier module de ce cours. Pour conclure sur le cours, on a vu un cycle complet de cycle de vie de l'application, du projet. On ne va pas aujourd'hui traiter le dernier point qui nous permettrait de boucler la boucle avec tout ce qui est supervision, amélioration continue dont tu parlais à l'instant, etc. Donc on verra ça dans un autre cours consacré à ce sujet-là. Pour terminer, donc vous pouvez nous retrouver sur nos différentes adresses, donc que ce soit des blogs, des Twitter ou des podcasts. Et puis vous pouvez également retrouver Stéphane.
Oh, c'est pas moi qu'on retrouve, c'est DevOps. Hein, c'est...
Co-auteur de ce magnifique bouquin qui s'appelle ouais. Découvrir DevOps, l'essentiel pour tous les métiers. Donc effectivement, que vous soyez développeur, infra, ops ou business, ça va vous intéresser forcément.
Il y a également le management, les métiers de la qualité également. Enfin, on a vraiment voulu présenter DevOps de sorte que ça puisse intéresser l'ensemble des acteurs du système d'information, l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et du coup, il y a plusieurs grilles de lecture possibles pour ce livre. On n'est pas obligé de le lire dans son intégralité. Chacun va le lire en fonction de ses affinités avec les sujets. Du coup, il y a certains sujets qui reviennent, mais avec une perspective différente en fonction de l'audience, entre guillemets, qu'on a ciblée.
Donc, tu l'as coécrit avec Samuel Métias.
Exactement, oui.
Notre collègue.
Oui.
Des services, dont le rôle est…
Il est chef de produit Visual Studio, maintenant.
D'accord. Et puis, avec un avant-propos de Bernard Roganlian, donc notre directeur technique et sécurité de Microsoft France,
oui.
Et une préface de pas n'importe qui, puisque c'est Patrick Desbois, un des pères de DevOps.
Patrick Desbois, effectivement, oui, c'est lui qui a trouvé le terme DevOps. Alors, comme il le dit lui-même, DevOps, c'est quelque chose de très participatif, donc il ne se présente pas comme le père de DevOps, c'est l'un des pionniers, mais voilà, c'est une œuvre collective DevOps.
Super, et merci Stéphane,
merci
Julien,
merci à toi,
et puis merci à tous, et puis à bientôt pour notre cours MVA.